Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
De notre Bible, alors c'est dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez suivre avec moi. Je vais faire comme il m'arrive de le faire quelquefois. Vous allez suivre dans votre version classique et moi je vais prendre une version un petit peu plus amplifiée. Donc voilà, du Nouveau Testament. Et puis je reviendrai dans le commentaire, je prendrai donc la même version que vous. Alors, il y a quelques petites différences, mais c'est pas grand chose. Mais c'était traduit dans un langage moderne, beaucoup plus approprié peut-être pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, je vous ai dit Matthieu chapitre 6, et on va lire à partir du verset 19, si vous voulez bien. Voilà, Matthieu chapitre 6, verset 19. Alors, c'est Jésus dans le sermon sur la montagne qui s'exprime ainsi, devant tous ceux qui sont autour de lui, et il leur donne ses conseils. Des conseils qui sont, c'est vrai, plein de bon sens, pertinents, alors comme nous allons le découvrir ensemble. Alors il dit ceci, « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs et des robes. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs et débordent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Si donc ta lumière intérieure n'est obscurité, dans quelle profonde ténèbre tu te trouveras? Personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu, mammon pour vous, l'argent pour moi. Enfin, quand je dis pour moi, c'est pas pour moi personnellement. Vous l'avez compris. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez les oiseaux qui volent dans les airs. Jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et pourtant, votre Père Céleste pourvoit à leur nourriture. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence ne fût-ce que quelques minutes? Quant aux vêtements, pourquoi vous mettriez-vous en peine à leur sujet? Observez les anémones, les lys sauvages. Regardez comment ils forment leurs fleurs. Ils poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, malgré toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien habillé que l'une de ses fleurs. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante champêtre, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement? Ah, votre foi est encore bien petite. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » Avec quoi nous habillerons-nous? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis, mais vous, vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Préoccupez-vous donc en premier lieu du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine. Vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. Voilà, que Dieu nous aide dans cette méditation. Et moi, je reprends la traduction classique, la version classique, qui est à peu près la même chose, mais vous avez vu quelques petites différences, qui nous permet peut-être justement d'appréhender le texte avec un petit peu plus de facilité. Alors, Jésus nous laisse deux considérations et pousse notre réflexion sur des exemples qui nous sont donnés. Être insouciant ou insoucieux. Alors, il y a une différence parce qu'être insouciant, c'est véritablement peut-être être dans l'ignorance ou l'irresponsabilité, eh bien, des réalités, des choses qui sont importantes dans la vie des hommes, insouciants. Voilà. Et puis, il y a également, en contrepartie, comme Jésus le fait très souvent dans ses enseignements, hein, il donne un sens et son contraire. Et je pense que c'est une façon, c'est une pédagogie d'enseignement qui est donnée à travers bien des exemples dans l'Évangile. Et il parle donc des insouciants, mais il parle des insoucieux aussi. De ceux qui, quelque part, ont dépassé l'inquiétude et les tracas, et puis s'en remettre dans une confiance totale ou dans la foi en Dieu, de dire, eh bien, quoi qu'il en soit, je ne maîtrise rien, ou si peu, de ma vie, de mon existence. Alors à ce moment-là, eh bien, je peux m'en remettre à lui parce que je le prie. Il a laissé des promesses et je peux lui faire confiance parce que, quelque part, véritablement, il sait mieux que moi-même ce qu'il me convient, ce qu'il me faut. Mais je pense que derrière tout cela, eh bien, ça n'exclut pas que l'homme doit être prévoyant. Et c'est pourquoi nous avons fait la deuxième lecture où Jésus stigmatise ce que peut être le tracas, l'anxiété, l'angoisse, pour des choses qui sont indifférentes à la vie, mais enfin, quelque part, qui sont nécessaires, c'est-à-dire le manger, le boire, ce que nous allons devenir, voilà, beaucoup de choses semblables. Et Jésus nous donne de véritables raisons avec des exemples qui sont tout à fait accessibles à la compréhension, les oiseaux, hein, les fleurs qui poussent dans les champs. Et vous allez me dire, ça n'est pas finalement, eh bien, la même chose que l'humanité, que les hommes. Mais néanmoins, si nous partons du principe que Dieu est souverain, alors il règne sur toute chose, et d'autant plus que si nous considérons qu'il est à la base, qu'il est à l'origine de notre création, alors s'il a fait les choses de cette manière, c'est qu'elle doit servir à, naturellement, eh bien, notre bien-être, et puis à notre paix surtout. C'est surtout cela, parce que on peut avoir beaucoup de choses sans être en paix. Alors Jésus développe tout cela, et il nous apprend comment gérer nos inquiétudes. Alors c'est vrai que nous sommes dans une société à l'escalier, mais où il y a beaucoup de choses. Enfin, pas pour tout le monde, il faut bien le reconnaître. Hein. Les répartitions ne sont peut-être pas forcément tout à fait égales. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus nous parle justement dans son temps, et il y avait beaucoup de précarité dans son temps. Hein. Si les hommes de cette époque voyaient ce que nous avons aujourd'hui, peut-être qu'ils pourraient dire « mais de quoi le monde se plaint-il ?» Hein, mais bon, voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de choses sans être forcément, dans des conditions intérieures où, aujourd'hui comme hier, il y a quelque chose qui préoccupe finalement, les hommes que nous sommes, c'est de toujours anticiper, de savoir ce qu'il va nous arriver, de tout ce qui peut nous arriver et de vouloir comprendre les choses à l'avance. D'ailleurs, Jésus le résumera bien, d'ailleurs, dans cette conclusion qu'il donnera, mais chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est vrai. Hein, et quoi que l'on soit, qu'on se rende malade ou non, de toute manière, on n'a pas la maîtrise sur certaines choses. Il faut bien le reconnaître, dans certains domaines dans notre vie, avec les moyens dont nous disposons peut-être, mais pas sur tout, en tous les cas, sur notre vie, sur notre souffle, ça, c'est certainement exclu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des paroles très pratiques, pragmatiques, et des paroles qui nous laissent réfléchir finalement pour, peut-être s'approcher, réfléchir et ainsi considérer que nous ne sommes pas seuls au monde et que peut-être si les choses sont ainsi dans notre existence, si nous regardons toujours à l'horizontale, il y a peut-être de quoi peut-être s'inquiéter, surtout dans le monde dans lequel on est, on en parle, hein, les médias sont là tous les jours à nous le rappeler, mais peut-être pour le croyant c'est différent parce qu'il regarde, le croyant et le chrétien c'est un homme réaliste, il faut le dire, c'est pas un illuminé, quelqu'un qui marche là dans une manière éthérée, mais il est tout à fait au conscient des réalités de notre monde, tout en ayant une vision à la verticale, c'est-à-dire que même si notre Dieu, si ce Dieu dont nous parle la Bible est invisible, néanmoins, c'est pas parce qu'il est invisible que, il n'existe pas. Et Jésus nous ramène finalement à ces réalités spirituelles, à ces évidences qui ne sont pas perceptibles avec les yeux, qui ne sont pas perceptibles avec peut-être l'intelligence humaine ou avec le raisonnement, mais toujours est-il qu'ils se perçoivent avec notre cœur. Et ça, c'est tout à fait sensible dans la manière dont Jésus nous enseigne. Alors, il dira cette parole au départ, il dira « mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Alors, naturellement, hein, on peut considérer que nous sommes dans une société où l'argent tient en effet une place prépondérante, et le monde tourne avec cela, il faut bien le dire. Il est nécessaire finalement qu'il y ait naturellement ces moyens d'existence, mais il ne faut pas confondre entre, et concernant justement ce que Jésus nous enseigne ce soir, entre les moyens d'existence et les buts de l'existence, ou les moyens de la vie et les buts de la vie. Jésus est toujours là à remettre les choses à la bonne place, parce qu'on peut, on peut oublier l'essentiel dans tout cela. Les moyens d'existence, c'est Dieu qui les donne, enfin pour nous en tous les cas en tant que chrétiens, et je pense que la manière dont nous pouvons considérer les choses, c'est l'en remercier. Ça, c'est une question de gratitude et de perception finalement de cette dimension. Mais maintenant, dans un autre côté, nous pouvons avoir tout et être profondément malheureux. Et je pense que on le sait très bien, c'est pas les trésors sur la terre, et Jésus dira, mais la teigne, la rouille détruisent, les voleurs percent, etc. Et Jésus va surenchérir, il dira, mais finalement, il dira, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il n'y a pas que cette dimension de la terre, il y a autre chose. Parce que les enseignements qui nous sont donnés à travers l'évangile, et le sermon sur la montagne en particulier, nous montrent que finalement, nous avons là, nous sommes placés sur deux niveaux en quelque sorte. Il y a les choses de la terre dont nous n'avons pas à négliger. Nous sommes engagés dans cette vie, déjà pour nos propres besoins naturellement, et puis notre épanouissement. Mais il y a aussi quelque chose. Et je pense que il le dira d'une manière tellement, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Il dira, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et puis le reste vous sera donné par-dessus tout. Et je pense que le mal, peut-être dans notre société, dans nos sociétés occidentales en particulier, c'est peut-être justement d'avoir oublié qu'il y avait peut-être autre chose, qu'il y avait une autre dimension. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Bon, c'est vrai que les perspectives sont pas très enthousiasmantes, parce que enthousiasmantes. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus nous ramène et dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Alors la teigne, les voleurs ne peuvent atteindre, car là où est ton trésor, là sera son cœur. Et je pense que finalement l'essentiel est bien stigmatisé. Enfin disons, nous pourrions dire le moteur, l'essentiel, de ce que peut être un homme, c'est son cœur. Le cœur, la Bible l'appelle l'âme, c'est-à-dire c'est le siège du sentiment, c'est le siège de la pensée, de l'intelligence, de la volonté, c'est ça l'âme. Et que l'on soit religieux ou pas, peu importe, ça tout le monde peut le comprendre, ça c'est l'identité invisible de l'homme. Et il y a les réalités physiques, nous pouvons dire matières, qui font que nous avons besoin naturellement de toutes ces choses, manger, boire, etc., etc. Mais il y a aussi une autre dimension, où je crois que l'homme moderne, et l'homme peut-être dans notre société occidentale, où il y a beaucoup de choses, il faut dire, une société de consommation et d'abondance, l'a oublié. Jésus va remettre le point, il dira, mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ça, c'est important. C'est important parce que finalement, le cœur, c'est un peu le gouvernail du bateau. C'est lui qui va donner la direction, les choix, et nous avons tous la possibilité. Dieu nous a créé des êtres libres. Et dans cette liberté, le libre arbitre, c'est de faire des choix entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Enfin bon, on peut multiplier naturellement toutes ces comparaisons. Et il parlera également de l'œil qui est la lampe du corps. Là, il n'est plus question du cœur, mais du corps. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous percevons, de telle manière que nous puissions juger par nous-mêmes. L'œil voit et il fait des choix. Et il peut choisir en fonction de ses inclinaisons, en fonction de ses convoitises, en fonction de ses désirs, enfin toutes sortes de choses. Donc l'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire que quelque part il y a quelque chose qui te pousse à aller dans une direction qui n'est pas forcément la meilleure, alors tu vas aller dans ce sens, parce que le cœur et ton œil va te donner une direction dans tout cela. Alors il te dit, mais si ton corps, alors à ce moment-là il sera éclairé. La manière dont tu vois les choses, la manière dont tu appréhendes les choses, la manière dont tu choisis, tu fais tes choix, ça c'est quelque chose de déterminant. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire que plus tu iras dans cette direction, plus tu vas en quelque sorte prendre des décisions ou des positions ou choisir des choses qui ne vont pas te servir à te faire du bien mais à te faire du mal. Et ça fait partie de la dimension dans laquelle Dieu nous a créés, c'est-à-dire les sens. Hein. Les cinq sens nous permettent finalement d'avoir une appréhension du monde dans lequel nous vivons, des réalités dans notre monde. Et là, je pense que la position du cœur, la position de l'œil, ça c'est un enseignement qui nous est donné. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Et il y a beaucoup de gens qui ont évacué Dieu. Bon, ça peut-être quelquefois par opposition à ce que l'exemple qui a été donné souvent par la religion, il faut le dire, hein, n'a pas toujours été la bonne. Hein, Jésus le dira d'ailleurs en parlant du judaïsme de son temps, de cette religion juive, il dira « mais faites tout ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font ». Et Jésus est catégorique par rapport à cela. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été induits en erreur, un petit peu confondus entre les choses qui sont dites et l'exemple qui est donné. Et c'est pour ça que Jésus a été en quelque sorte à la fois critiqué, controversé et même crucifié. Parce qu'il est revenu remettre les choses, eh bien, véritablement dans leur sens. Et à travers tout cela, eh bien, il dira, mais à ce moment-là, combien grandes seront tes ténèbres? Et c'est vrai qu'on voit, et nous sommes dans un monde qui se déchristianise de plus en plus, et où Dieu n'a plus sa place, en quelque sorte. Mais quelle place donner à Dieu, alors, à ce moment-là? Faut d'abord connaître, faut d'abord savoir. Et c'est vrai que la Bible, je ne dis pas une religion, je ne dis pas le centre évangélique, c'est, je dis souvent ça, mais véritablement cette approche que nous pouvons avoir de Jésus. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure qui nous dit ces paroles que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et ça c'est dans Jean chapitre 14 verset 6. Et nous voyons que s'il y a une option à prendre, c'est pas pour une communauté ou une religion particulière ou une théologie particulière, mais c'est pour la personne de Jésus. Toute la Bible est remplie de Jésus. Même l'Ancien Testament où finalement il est annoncé et qu'il est révélé dans le Nouveau Testament, mais tout est centré sur Jésus. D'ailleurs, le christianisme tire son appellation du mot Christ, de toute manière. Et je pense que tel est le maître et tel doivent être aussi tous ceux qui se déterminent à être ses suivants ou ses disciples, comme vous voulez. Donc nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc on a vu les richesses, on a vu les trésors, on a vu également les positions donc du cœur et puis de la manière dont nous regardons les choses. Il dira, mais nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un, aimera l'autre. Il n'y a pas de place pour les deux. Il faut faire un choix à un moment donné. Ça n'exclut pas que nous ayons finalement une vie dans laquelle nous devons mener cette vie dans le monde. Hein, nous ne sommes pas là, et bien tout simplement, à nous retirer et puis à nous exclure nous-mêmes, pas du tout. Non, mais je pense qu'il y a une vie sociale, une vie familiale, une vie conjugale, et puis toute la vie, de toute manière. Mais de pouvoir donner cette priorité, cette prééminence à Dieu dans notre vie. Soit il aimera l'un, ou il aimera ou haïra l'autre, il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre, et vous ne pouvez servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je l'ai dit tout à l'heure, la traduction de Mammon, c'est un mot araméen. Donc, c'est comme ça, Jésus parle en araméen. Et nous voyons que ça veut dire tout simplement les richesses. Et peut-être ça remet un petit peu en cause toute notre société qui vit à l'heure de toutes les spéculations financières, etc., etc. On n'en a jamais parlé autant aujourd'hui. Et de pouvoir dire, eh bien, c'est vrai que c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que dans notre monde, il y a les deux. Hein, il y a des richesses et puis il y a aussi une grande et terrible pauvreté, l'une à côté de l'autre. Mais de trouver l'équilibre dans tout cela. Alors nous en arrivons justement, et eh bien après, ce problème, c'est le problème comment gérer nos inquiétudes, parce que nous sommes des hommes comme les autres, et nous pouvons être inquiets, nous pouvons connaître des soucis, des tracas, nous pouvons connaître parfois, et eh bien, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, pour nos vies, notre santé, les questions économiques, les questions de travail professionnel ou autre chose, et Jésus nous dira, mais c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors c'est vrai que ce sont des paroles qui sont assez facile à dire, hein. Ne vous inquiétez pas. Quelquefois, on est un petit peu comme ça, quand on voit quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « mais je suis un petit peu là ennuyé pour ceci et cela », la première chose qu'on lui dit « mais ne t'inquiète pas ». Bon, c'est nous qui le disons. Hein. Celui qui est dans l'inquiétude, il ne vit peut-être pas les choses de cette manière. Mais Jésus reprend finalement, il dit « mais ne vous inquiétez pas », et il va nous donner les raisons de ne pas nous inquiéter. Et il va nous dire que l'inquiétude, ça ne sert à rien. Et c'est difficile, parce qu'on peut toujours en avoir le raisonnement, mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Alors, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas trop notre sujet et notre problème dans nos pays, mais il y a quand même une grande partie de l'humanité qui peut s'inquiéter de ce qu'il va manger et de comment il va être vêtu. Hein. Nous, pour nous, on passe là, on se dit, bon, c'est bien, c'est formidable ce que dit Jésus. Mais je pense que c'est peut-être pas le cas de certainement de millions et de millions de personnes. Et Jésus le dit quand même parce qu'il va donner la solution. C'est pas une parole gratuite, c'est pas une parole en l'air de consolation facile, mais c'est qu'il va donner les raisons. Il va donner les raisons de cette manière. Il va nous demander de réfléchir. Il va nous dire, mais la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie, c'est plus que la nourriture. La nourriture, c'est ce qui entretient la vie. C'est une réalité, c'est une vérité. Et quelquefois, nous passons à côté de cela. Si nous voulions avoir peut-être le minimum de bon sens, on pourrait peut-être s'apercevoir que la vie, eh bien, a besoin d'être entretenue. Mais néanmoins, peut-être en l'absence ou en diminuant la nourriture, la vie est quand même plus importante. Et il parlera, il dira, mais le corps est plus que le vêtement. Le corps, ben oui, on sait ce que c'est naturellement. Il a besoin d'être recouvert pour différentes raisons. Mais finalement, eh bien, il y a une différence à faire entre l'un et l'autre. Et il va prendre des exemples de la nature. Jésus va dire, regardez les oiseaux du ciel. Alors, c'est une contemplation de la création, on pourrait dire. Et quand on regarde, finalement, tout ce qu'il y a autour de nous, on peut se dire que les choses sont extraordinaires. Enfin bon, si nous avons cette conception que c'est Dieu qui a créé tout cela, dans sa diversité, dans sa variété, dans sa multiplicité, à travers les différentes espèces, à travers les fleurs, à travers les oiseaux, à travers les poissons, etc., etc. Je pense qu'il y a un éblouissement pour nos yeux et une contemplation, hein. Et d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dira, mais finalement, que la création de Dieu se voit comme à l'œil nu, pour ceux qui veulent bien en considérer finalement, eh bien, là, les manifestations. Alors les fleurs, hein, puisque Jésus en parle, quand vous voyez la multiplication, sans compter ce que les hommes ont été capables de faire en hybridant les fleurs et en multipliant finalement, eh bien, des variétés ou autre chose, mais une petite fleur, vous voyez sur le bord de la route, on ne s'arrête pas parce qu'on prend le TGV maintenant, ça va trop vite, hein, pour le voir au passage. Mais quand on prend en considération finalement les choses, et si vous êtes un tantinet botaniste, vous allez voir qu'il y a des choses merveilleuses à nos pieds. Regardez les fleurs des champs, et les oiseaux du ciel, dira-t-il. Regardez les oiseaux du ciel avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Hein, semer, c'est le travail des hommes, moissonner, c'est le travail des hommes et les oiseaux. Quelquefois, ils ont faim. En hiver, ils sont quelquefois un petit peu dans la disette. Mais néanmoins, une chose qui est certaine, une chose qui est sûre, c'est que les oiseaux sont entretenus quand même. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ils trouvent toujours, à un moment ou à un autre, la nourriture. Ils trouvent toujours quelque chose parce que le Créateur leur a donné, finalement, ce qu'ils ont besoin. Quelquefois, dans la saison la plus favorable avec la surabondance, alors il paraît qu'ils font de la graisse, hein. Ils mangent beaucoup pour des temps de disette, hein, l'hiver par exemple. Mais Jésus nous dit, mais regardez un petit peu. Et il parlait avec des gens certainement qui étaient de son temps, c'était des paysans, c'était des campagnards. Il y avait des gens des villes à Jérusalem et dans les grandes villes d'Israël. Mais il savait à qui il parlait. Il prenait ses exemples dans la nature, il tirait les exemples de la nature pour bien faire comprendre. Jésus n'a jamais parlé avec des grands sermons. Il a parlé avec des choses simples, des images, que l'on appelle des paraboles, d'ailleurs. Alors, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, donc ils ne travaillent pas, et ils ne devraient pas pouvoir manger. Ils n'abassent pas non plus dans les greniers, parce qu'ils n'ont pas de grenier. Hein ? Les greniers, c'est la nature pour eux, tout simplement. Et votre Père céleste les nourrit. Remarquez la parole. Votre Père céleste les nourrit. Vous remarquerez que Jésus ne parle pas de Dieu qui les nourrit. Mais il parlera, il emploiera un terme tout à fait particulier d'intimité et de proximité de l'homme et puis des oiseaux, puisqu'il est question d'eux, mais il parlera de Père Céleste. Ah oui, tout l'Ancien Testament, pour ce que nous connaissons de ces paroles des Juifs, nous parle de Yahvé, nous parle d'Adonai, hein, Seigneur, le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant, etc. Mais Jésus va augurer une nouvelle alliance, une nouvelle dimension dans ce rapprochement de l'homme avec Dieu à travers l'évangile, à travers la personne de Jésus. Et une des premières choses que Jésus enseignera, lorsqu'il viendra, il parlera à ses disciples et aux foules, il dira « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est bien différent d'un Dieu inconnu, d'un Dieu qui est perdu dans dans l'univers, hein, dans tout ce monde qui est inconnaissable, ça c'est certain, mais il dira votre Père. Et je pense que Jésus, par cette parole très forte, nous montre que non seulement nous avons un Dieu dans le ciel, mais nous avons un Père céleste. Et à travers cette affirmation, il nous montre à l'évidence que qu'est-ce que ferait un Père? Qu'est-ce que ne ferait pas un Père? C'est-à-dire qu'il nourrit ses enfants. Il nourrit finalement tous ceux qui sont autour de lui. C'est tout à fait normal parce que un Père, il y a la notion d'amour et de compassion, de conservation en quelque sorte. Et votre Père céleste est nourri. Et il dira avec cette question, parce que c'en est une, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que nous valons plus qu'un oiseau? Certainement. Enfin, je pense qu'on peut se considérer comme ça, hein, sans orgueil particulier, hein, sans, hein, non, je pense que on va beaucoup plus que il y a dans la création de Dieu le monde minéral, le monde animal, et puis il y a l'homme. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'homme est le couronnement de la création, de sa création. Et c'est bien dommage que les choses ne se passent pas forcément comme Dieu l'a voulu. Mais bon, je vous ai dit que Dieu avait le respect de la liberté humaine. L'homme fait comme il veut, comme il choisit lui-même, en fonction de son cœur et en fonction de ses yeux. On l'a vu il y a un instant. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous? Et là, c'est intéressant parce que ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous est renvoyé à nous-mêmes lorsque nous avons été confrontés avec cette interrogation à laquelle nous pouvons répondre maintenant. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors Jésus parle à la manière de son temps. Une coudée, à l'époque de Jésus, c'est 50 cm, c'est-à-dire à peu près du bout des doigts jusqu'au coude. Mais ça dépend des personnes. Naturellement, il y en a... Mais c'est ça une coudée. Et c'est vrai que Jésus a raison quand on se met à y penser, on se dit, mais c'est vrai, c'est pas parce que je vais m'inquiéter de ce que je vais manger, comme la manière dont je vais faire les choses, etc., etc. Et Jésus est en train de nous provoquer, en quelque part, en disant, mais les inquiétudes, c'est pas parce qu'on va s'inquiéter que ça va changer quelque chose. Au contraire, je dirais que ça va compliquer notre vie. Parce qu'il y a déjà des réalités difficiles. Il y a déjà peut-être des questionnements, il y a déjà des perplexités dans notre existence, que ce soit sur le plan matériel ou relationnel, peut-être avec d'autres, hein, des conflits, enfin toutes sortes de choses, hein, peut-être au niveau familial. C'est pas parce que je vais m'inquiéter de trouver une solution et de dire « mais comment je vais m'en sortir ?» que ça changera et que là je vais passer mes jours et mes nuits à essayer de ressasser le problème, à essayer de trouver, de me consumer finalement, de m'épuiser, ça ne changera rien. Ça ne change à rien. Au contraire, je dirais que c'est même invalidant de s'inquiéter, parce que ça nous prive finalement quelquefois de bon sens, et ça nous prive d'une certaine capacité, eh bien là, à pouvoir raisonnablement, intelligemment, trouver des solutions qui seraient peut-être beaucoup plus accessibles si je ne me morfondais pas, parce que l'inquiétude c'est quoi? C'est essayer de trouver des appuis de droite et de gauche, des appuis. Bon, il y en a des solides, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas solides. Et qui, quelque part, me tourmentent dans mon imagination, on appelle ça la folle du logis, hein, c'est comme ça que, enfin, voilà, hein, et qui fait que je me morfonds. Alors, je suis d'accord dans un moment donné, puis je change d'avis 2 minutes après. C'est ça l'inquiétude. Et vous savez que nous sommes dans un monde qui est tourmenté par l'inquiétude, hein. Je crois que nous sommes le 2e pays au monde pour la consommation de barbituriques et d'anxiolectiques et toutes sortes de calmants et de choses semblables. Donc, il y a quand même un véritable problème, hein, et je crois que ça dénote certainement un manque, ou plutôt une marque de désespérance dans nos sociétés occidentales. Hein, si vous avez lu le livre qui a été écrit dans les faubourgs de Calcutta, par exemple, La Cité de la Joie, alors l'écrivain qui est connu, c'est un journaliste, c'est un livre qui a déjà une 30aine d'années, hein. Et c'est très intéressant, et je pense que ça peut être pour tout le monde, parce que c'est un livre qui est formidable. Ces gens n'ont rien dans ces ghettos de Calcutta. Ils n'ont rien du tout, ils ont à peine de quoi manger, ils ne savent pas ce que sera le lendemain, mais ils sont particulièrement marqués par une joie et une espérance que nous n'avons plus. Il suffit de regarder un peu notre société, vous avez des gens, bon, pour façade, naturellement, ne veulent pas montrer, mais néanmoins, à l'intérieur de leur cœur et de leur vie, si nous pouvions descendre en eux-mêmes, eh bien, il y a quelquefois véritablement de grandes anxiétés et de grands états de dépression. D'ailleurs, la dépression, quelquefois, elle va jusqu'à son terme, puisque nous sommes aussi dans les records de suicidants. Tout le monde n'y arrive pas, mais il y a quand même un grand nombre de gens qui ne veulent plus vivre. et qui sont désespérés parce qu'ils sont rongés par l'inquiétude. Ils sont rongés par l'avenir, plus de perspective, plus de vision. Et ça, c'est terrible. Et nous sommes dans une société où nous avons énormément d'assurance et nous sommes surassurés, nous sommes quelquefois assurés plusieurs fois sans savoir que nous avons multiplié peut-être finalement ce genre de démarche. Et on s'aperçoit que plus le monde va dans ce sens-là, plus il est fragilité, plus il est fragilisé, pardon, et plus il est précarisé en quelque sorte. Il s'inquiète de plus en plus. Donc, on n'ajoutera pas quelques minutes de plus à la durée de notre vie parce que nous allons nous inquiéter. Et où Jésus veut nous amener à quelque chose de formidable, et nous terminerons justement là-dessus, c'est ce repos intérieur, indépendamment des circonstances et des événements qui sont tout autour de nous. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez les lys des champs, c'est la même chose que pour les oiseaux. Comment ils croissent donc dans les champs? Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même n'a pas été vécu au moment de son règne. Alors Jésus prend l'exemple de Salomon, parce que Salomon a été le plus grand roi d'Israël, qui a connu, nous pourrions dire, en effet, ce que pouvait être le bonheur humain sur cette terre. C'est un homme qui avait des richesses considérables, il était à la tête d'un empire, pour un petit pays comme Israël, mais il régnait, ça remonte à quelques siècles. Et quand nous lisons, par exemple, les commentaires de la vie de Salomon dans le livre des Rois ou des Chroniques, on s'aperçoit que... Et je pense que c'était un homme qui était incroyant, Salomon, et qui avait été béni par Dieu. Et il avait multiplié, finalement, les richesses, les capacités, sa gloire. Même la reine de Saba avait fait le voyage, Saba c'est l'Égypte, l'Éthiopie, et elle était surprise, elle qui était une fabuleuse reine, et elle était surprise de voir la grandeur. Et Jésus nous dit, mais même Salomon n'a pas été vêtu aussi bien, aussi grandement, royalement, que les lys des champs. Jésus ramène tout finalement à l'essentiel en quelque sorte. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain serait jetée au four, il fait ça par rapport aux fleurs d'aujourd'hui, aux fleurs qui sont dans les champs, et qui demain, avec le soleil, vont brûler, vont disparaître. C'est très éphémère, mais Jésus veut nous dire, mais la vie, elle est éphémère aussi. C'est vrai, ça passe vite une vie. Vous vous souvenez quand vous aviez 20 ans? Ouais, on était beau et frais. Et puis, on fane. Mais... laissez-moi vous dire, il y a une différence quand même. Il y a une petite différence. C'est que quand on a la foi et quand on suit un peu le raisonnement de Jésus, c'est vrai que la vie passe, elle passe très vite. Qu'est-ce que c'est que 80 ans, même pour ceux qui ont dépassé l'âge canonique, on s'aperçoit que quelque part, il y a quelque chose qui, physiquement, matériellement, au niveau physique, va finalement, vieillir, mais c'est beau de vieillir aussi, on a les cheveux blancs, il paraît que c'est une couronne d'argent, les cheveux blancs. Alors donc, on s'aperçoit, mais la foi, et Jésus nous le dit, c'est pour ça qu'il dit, mais que votre trésor, il ne soit pas à l'extérieur, il ne soit pas dans les richesses, etc., mais il dira plutôt que votre trésor soit dans votre cœur, et là où est ton cœur, on saura où est ton trésor. Et Jésus nous explique que finalement, même si la vie passe et que nous vieillissons et que nous sommes frappés par les âges, mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un renouvellement extraordinaire et formidable. C'est qu'il y a, à travers une expérience que nous faisons avec Jésus, comme une sorte de nouvelle naissance, comme une renaissance à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est vrai que nous pouvons avoir des rides, quelquefois ça ne nous fait pas plaisir, mais on n'a pas le choix de les garder, naturellement. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, cette espérance que nous avons mise, selon ce que Jésus nous dit, faites-vous un trésor dans le ciel, au fond de votre cœur. Et là, il y a parallèlement quelque chose qui va diminuer, c'est-à-dire c'est l'aspect physique. Et à côté, il va y avoir quelque chose qui va monter, c'est l'aspect moral, c'est la dimension spirituelle, l'âme, le cœur à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça le trésor dont nous parle Jésus. Et à travers, finalement, une paix intérieure, à travers une joie intérieure, à travers une tranquillité à l'intérieur. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. C'est dans le calme et la confiance que sera votre porte. Vous connaissez chapitre 30, verset 15. Alors surtout, ne l'oubliez pas, d'accord? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est ça justement le secret d'une connaissance de Jésus. C'est pas d'appartenir à une religion ou d'appartenir à une communauté. C'est d'avoir une relation avec Jésus. Parce que pour nous, pour ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus, il est mort pour nous, mais il est ressuscité, il est vivant. et nous savons qu'il est vivant. Et je pense que dans le monde entier, partout où il y a l'évangile, où l'évangile est prêché, est accepté, il est cru, il est reçu cet évangile, il y a là quelque chose qui va se faire, une transformation intérieure. Alors ça se voit pas à l'extérieur comme ça, hein. Et d'ailleurs il vaut mieux pas que ça se voit, hein. On n'a pas sur notre veste, je suis chrétien, vous devriez pas le mettre d'abord, hein. Ça serait un petit peu, ça serait un peu déplacé. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit avec eux, avec quelque chose qui lui donne de ressembler et qui marque l'exemple et le modèle qu'il a dans la personne de Jésus. Bien qu'il ne soit pas parfait, ce chrétien, bien qu'il n'ait pas atteint finalement les summums et qu'il ne soit pas un saint, mais une chose qui est certaine, c'est que il y a les fruits qui sont en Jésus-Christ, que l'on appelle les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, et puis bien d'autres choses qui caractérisent, finalement qu'il y a eu une transformation de vie. Alors, il est bien dit ceci, ne vous inquiétez donc point à travers ce processus, qui n'est pas un processus que nous allons faire nous-mêmes, en nous extraignant à des sacrifices, en essayant de gagner notre ciel, ou d'acheter notre ciel, ou ceci et cela, non. C'est tout simplement un consentement que nous donnons à Dieu, que lui, par son esprit, fasse une transformation dans notre vie, ce qu'on n'y arrivera jamais. D'ailleurs, Jésus le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il en parle particulièrement par rapport à la vie intérieure. Alors, ne vous inquiétez donc point de ceci ou de cela, de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vécu. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alors, quand il est dit païen, c'est pas péjoratif. Quand il est dit païen dans la Bible, ce sont des gens qui ignorent. Je ne peux pas dire que ce sont des ignorants, mais ça veut dire un petit peu quelque part. Ce sont des gens qui n'ont jamais pris connaissance du message, qui n'ont jamais pris connaissance de l'offre que Dieu leur propose. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que aussi, il faut le dire, c'est que Jésus n'est pas venu pour juger les hommes. Il n'est pas venu pour les condamner, il est venu pour les sauver. C'est l'histoire du fils prodigue. Quelle parabole, on l'appelle la parole des paraboles, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, mais ils les recherchent parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Si les hommes lisaient la Bible, et quel effort nous pouvons faire, nous, dans nos milieux, pour essayer de faire connaître la Bible. Nous envoyons des missionnaires dans le monde entier. Nous avons des traducteurs. La Bible bientôt va atteindre des proportions extraordinaires de traduction dans des dialectes, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de peuples, pour faire connaître ce message. Et c'est le but. C'est pas d'autre démonstration que cela. Alors, car toutes ces choses, donc ce sont les païens qui les recherchent, votre Père Céleste, deux fois que cela nous est dit, sait que vous en avez besoin. J'ai besoin d'avoir la nourriture, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de ceci et cela. Et nous ne sommes pas pour mépriser toutes ces choses parce que nous en avons besoin. Mais Dieu est capable de nous donner ces choses si nous lui faisons confiance. Si nous lui demandons, tout simplement. Cherchez premièrement, et je termine, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, je donne la priorité à Dieu. Voilà, c'est tout. Ça ne m'empêche pas d'être autrement et de faire autre chose. Mais c'est lui qui a la prééminence sur ma vie. C'est lui qui a la priorité. Et je crois que tout croyant, tout chrétien, eh bien, la première chose qu'il apprend, qu'il découvre, c'est de demander à Dieu, on appelle ça la prière. Pas une prière avec des redites, avec des récitations qui n'en finissent pas, etc. Parce que dans toute religion, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, vous avez vu, tous les hommes sur la terre, enfin tous les hommes, façon de parler, tous ceux qu'on peut appeler croyants, indistinctement, prient. Alors avec leur méthode, mais c'est toujours des prières répétitives. Et Jésus de Nîmes, c'est pas avec à force de parole que vous serez exaucés. Mais c'est quelque chose, une expression de simplicité, d'inspiration qui vient de notre cœur selon les besoins, de pouvoir lui présenter en disant, Seigneur, moi j'ai besoin de ceci et cela. J'ai besoin que tu répondes, peut-être à mes interrogations, à mes perplexités. J'ai besoin que tu m'ouvres une porte pour ceci et cela, pour du travail ou autre chose, peu importe. J'ai besoin. Et il nous est dit, mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Et il y a cette parole de Jésus dans Marc chapitre 11. Il est dit cette parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu ne nous dit pas comment, il ne nous dit pas quand nous le verrons s'accomplir, mais il nous dit que vous le verrez s'accomplir. Et c'est ça ce qui nous ennuie, nous, parce que nous voudrions savoir quand et comment. Le Seigneur ne nous dit rien. Mais c'est une attitude de foi, j'attends. Et je voudrais quand même préciser une chose, dans les choses essentielles de la vie et même dans les choses par-delà, c'est quand nous prions avec sincérité, que nous prions Dieu à travers Jésus. pas autre chose que Jésus. Alors à ce moment-là, je crois que Dieu entend nos prières. Et combien de fois est-ce qu'il renforce notre foi? C'est que nous avons demandé et nous avons été exaucés. Non pas parce que nous serions meilleurs que les autres, que nous aurions un privilège par rapport aux autres, mais parce que nous avons finalement cette grâce que Dieu nous a donnée. C'est une grâce, c'est pas un privilège, celui de croire finalement et bien qu'il nous entend et qu'il nous écoute et qu'il nous donne. Et c'est la foi qui va être déterminante. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire la priorité, la prééminence à Dieu, et puis le reste va nous être donné. Comment avons-nous fait depuis que nous connaissons le Seigneur? Moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais une vingtaine d'années. Hein, j'étais pas croyant. Enfin, en tous les cas, au sens où je le suis aujourd'hui. Enfin, j'espère. Toujours est-il. Mais une chose qui est certaine, c'est que pas à pas, dans la vie, dans le quotidien, associer Dieu à toutes nos affaires d'existence, tous nos problèmes et nos joies et nos peines, eh bien, nous avons appris à marcher avec lui. Et nous avons appris, finalement, à compter sur lui. Et nous avons vu, parce que chaque fois qu'il y a un exaucement, qu'il y a une réponse, ça nous conforte toujours de plus en plus pour nous dire, mais véritablement, notre Dieu, il est vivant. Et ça, il s'occupe de nous. Il y a un livre dans lequel nous pouvons lire, c'est la Bible. C'est un livre merveilleux. C'est pas un livre à détourner avec des théologies ou avec des théories et des philosophies, non. Il faut le comprendre dans son sens spirituel. Et c'est un livre extraordinaire que la Bible. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Il y a peut-être votre programme, non? Vous vous inquiétez pour demain? Ouais. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas, mais toujours est-il, on a toujours des perspectives. Autrement, s'il n'y avait pas d'espérance, on ne pourrait pas vivre, parce que l'homme, quel qu'il soit, croyant ou pas, il vit avec une espérance. Hein. Il croit en lui ou il croit en autre chose. Mais toujours est-il que ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que sera mon lendemain? Je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas. Il y a peut-être des surprises agréables, peut-être d'autres moins. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de nous mettre, comme on dit, martel en tête. Parce que Jésus le dit, mais chaque jour aura soin de lui-même, quoi qu'il en soit. À chaque jour suffit sa peine. Moi, je voudrais simplement terminer pour dire qu'à chaque jour, il n'y a pas seulement de la peine. Il y a aussi de la joie. Il y a aussi des choses qui sont inattendues, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont finalement, eh bien, en quelque sorte, réjouissante. Mais tout cela, alors on est en train de d'osciller entre le positif et le négatif. Moi, je dis que, à travers les enseignements que Jésus nous donne, c'est un enseignement royal, capital, qui est essentiel, qu'il nous donne, à lui faire confiance et à mettre tout simplement, eh bien, à lui faire foi dans ses paroles. Parce que s'il nous le dit, c'est pas pour notre malheur, c'est pour notre repos, pour notre paix. Et c'est ça la grande différence. La foi procure la joie. Ouais. Je crois que c'est cela. Et la foi, elle génère aussi la paix à l'intérieur. La paix dans nos pensées. La paix dans notre conscience. La paix dans notre cœur. La paix dans notre esprit. C'est ça la foi. Et quand Jésus nous donne ce texte à réfléchir, à méditer, c'est qu'il veut tout simplement nous dire, eh bien, croyez-en moi. Croyez en moi, faites-moi confiance. Et si vous mettez ces choses en pratique, si vous voulez les vivre, eh bien vous verrez que ce n'est pas seulement des belles paroles, parce que bon, c'est vrai que ce sont des belles paroles, avec tout le poétisme qu'il peut y avoir finalement, eh bien dans ce que Jésus nous dit, mais c'est pas cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus éminent et pratique, hein, c'est que la foi, c'est essentiel. C'est quelque chose qui est vraiment la clé de voûte d'une vie réussie, et surtout dans des conditions dont nous avons besoin éminemment dans notre temps, cette paix et cette joie à l'intérieur de nous-mêmes. On est dans un monde triste. Un monde, dira quelqu'un, c'était un théologien qui disait cela, un monde en état de dépression permanente. C'est vrai, avec tous les événements qui se passent, etc., etc. C'est vrai, ce sont des réalités et nous ne pouvons pas y échapper. Ce sont des choses qui sont là. C'est comme cela. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus nous assure que même le monde pourrait être encore 10 fois plus compliqué. Ce qui est important, c'est d'avoir la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et à ce moment-là, les choses changeront pour nous. Il est capable de changer les conditions de nos vies, dans la mesure où nous lui donnons la première place et que nous lui faisons confiance. On va prier quelques instants, si vous voulez, à travers ce message tout simple, mais un message, moi je pense, qui est pratique et qui peut nous faire du bien à chacun, en fonction de ce que nous traversons les uns les autres et les questions que nous pouvons nous poser. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons croire, Père éternel, que l'homme d'aujourd'hui a besoin véritablement, Seigneur, d'être rassuré, mais plus encore, il a besoin d'être assuré. Il a besoin d'avoir des certitudes, mais où trouver ces certitudes? C'est vrai que nous pouvons nous donner, Seigneur, une philosophie d'existence, ou des philosophies d'existence, ça c'est vrai, ça peut aider. Mais nous avons besoin de quelque chose qui vient de plus haut, plus grand, plus loin, Seigneur. Et en effet, nous voulons croire, Seigneur, que tu appelles encore des hommes et des femmes, pour qu'ils puissent te découvrir, par le biais de ta parole en l'écoutant. Tu nous rappelles, Seigneur, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nos amis qui sont là ce soir, qui nous rejoignent, et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent non seulement, après avoir entendu ta parole, eh bien, en recevoir tout le bénéfice, mais qu'ils puissent véritablement réaliser, Seigneur, comme tu l'as promis toi-même, que tu es au milieu de nous. Oui, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, nous dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Que cette paix, que cette joie, que cette compréhension, cette ouverture de notre esprit, Seigneur, eh bien, puisse se révéler et se manifester à travers cette parole qui est portée par ton esprit, qui est avant tout un esprit de vie, un esprit, Seigneur, vivant. Et nous te bénissons et nous te remercions. Bénis-nous, Seigneur, ce soir, nous te le demandons, et nous te remercions et que nous puissions repartir maintenant, l'âme et le cœur déchargés, en sachant, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous et qui nous porte. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.